Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 8 de la Sainte Sourate Tin. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين وهذا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم.
Par la figue et par l'olive et par le mont Sinin et par cette cité sûre très certainement nous avons créé l'homme en la plus belle stature. Ensuite, nous l'avons renvoyé au plus bas des bas, sauf ceux qui croient et font œuvre bonne, car à eux un salaire jamais interrompu. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter de mensonge la rétribution? Dieu n'est-il pas le plus grand juge des juges ?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce dimanche 31 octobre 2021. Nous allons vous présenter tout de suite le journal suivi d'un commentaire politique. Nucléaire, ce qu'attend l'Iran de l'Europe. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. Au sommaire de ce journal, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré qu'aucun pays n'avait le droit de parler des capacités de défense de l'Iran. Le chef de la défense civile iranienne a déclaré qu'Israël et les États-Unis étaient probablement à l'origine d'une cyberattaque qui a perturbé les ventes d'essence dans tout l'Iran. Et puis une attaque à la roquette vient de viser ce dimanche matin un quartier près de la zone verte à Bagdad. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré qu'aucun pays n'avait le droit de parler des capacités de défense de l'Iran. Ali Borerikani a rejeté les tentatives américaines de lier les pourparlers de Vienne au programme de défense de l'Iran. Borerikani a déclaré que chaque pays a le droit de construire une force de dissuasion forte et que l'Iran a le droit de développer ses propres capacités de défense. Il a noté que la puissance de défense de l'Iran vise à assurer ses intérêts nationaux et sa sécurité. Le diplomate iranien a fait ses remarques dans une interview avec Russia Today en réponse à la question de l'hôte sur certaines tentatives de lier les pourparlers sur l'accord nucléaire de 2015 au programme de missiles iranien. Il a déclaré que les progrès des pourparlers de Vienne dépendent d'une forte volonté d'accepter la suppression des sanctions cruelles et illégales imposées à l'Iran. Un jour seulement après que Washington a imposé de nouvelles sanctions contre Téhéran, les États-Unis, les signataires européens de l'accord nucléaire de 2015, envoient maintenant un autre signal déroutant. Ils exhortent l'Iran à reprendre les pourparlers bientôt pour éviter ce qu'ils appellent une escalade dangereuse. Dans une déclaration conjointe à l'issue du sommet du G20, ils appellent l'Iran à changer de cap, pointant du doigt les mesures coercitives de l'Iran concernant ses engagements nucléaires. Malgré le désengagement occidental, Téhéran, observant une patience stratégique, a continué à respecter ses obligations liées au pacte pendant une année entière, mais a commencé à les réduire en réponse à l'abandon de l'accord par les États-Unis en 2018 et à l'échec des parties européennes à respecter leur part de l'accord. L'Iran se dit prêt à reprendre les négociations fin novembre, mais souhaite voir les sanctions levées à l'issue des pourparlers. Washington, cependant, a ciblé le programme de drones de Téhéran avec une nouvelle série de sanctions il y a à peine 2 jours, une décision qui, selon l'Iran, est en contradiction avec les affirmations de la Maison-Blanche de vouloir rejoindre l'accord multilatéral déchiré par Donald Trump. Le diplomate iranien Kozem Gharibabadi réagit aux allégations du ministre suédois des Affaires étrangères concernant les droits de l'homme en Iran. Un haut responsable iranien a réagi aux propos tenus par la ministre suédoise des Affaires étrangères, Ann Linde, sur la situation des droits de l'homme en Iran, attirant son attention sur un rapport d'experts de l'ONU sur le respect excessif des sanctions américaines portant atteinte au droit à la santé des Iraniens, après qu'un fabricant de pansements suédois a décidé de suspendre les expéditions vers l'Iran. J'attire l'attention du ministre suédoise sur la déclaration de plusieurs experts des droits de l'homme de l'ONU intitulée « Le respect excessif des sanctions américaines par la Suède porte atteinte aux droits des Iraniens à la santé », a déclaré Kozem Gharibabadi, secrétaire général du Bureau iranien des droits de l'homme, dans un tweet samedi. Gharibabadi a également inclus des parties de la déclaration de l'ONU dans son tweet. Les sanctions américaines portent atteinte à la capacité des patients iraniens de jouir de leurs droits humains, en particulier de leur droit à la santé, d'être à l'abri de la douleur physique et psychique, des traitements inhumains et du droit à la vie. Dans son tweet de vendredi, la ministre suédoise des Affaires étrangères a affirmé que la situation des droits de l'homme en Iran est très grave, affirmant qu'elle et le gouvernement suisse ont continuellement soulevé la question lors de discussions avec des représentants iraniens. Un groupe d'experts de l'ONU a averti le 19 octobre que le respect excessif des sanctions américaines pourrait priver les patients iraniens de leurs droits humains, en particulier le droit à la santé. Le désarmement nucléaire est réalisable avec la volonté politique, insiste l'ambassadeur d'Iran à l'ONU. Coïncidant avec la Semaine mondiale du désarmement, Majid Tartravanchi, ambassadeur d'Iran et représentant permanent d'Iran auprès des Nations Unies, a déclaré « S'il y a une volonté politique, le désarmement nucléaire peut être mis en œuvre dans le monde ». Le 28 octobre, la résolution biennale proposée par la République islamique d'Iran, intitulée « Poursuivre la mise en œuvre des engagements convenus lors des conférences d'examen des membres du TNP en 1995, 2000 et 2010 », a été approuvée avec le soutien de la majorité des membres de la première commission de l'Assemblée générale. La résolution devrait être présentée à l'Assemblée générale des Nations Unies dans environ un mois et y sera finalisée. La résolution appelle les États membres du TNP à accélérer la mise en œuvre de leurs engagements de démanteler complètement leur arsenal nucléaire, conformément aux principes de transparence, d'irréversibilité et de contrôle international. Lorsque le traité de non-prolifération est entré en vigueur en 1970, les États membres se sont engagés en faveur du désarmement nucléaire. En d'autres termes, les États dotés d'armes nucléaires se sont engagés à détruire leurs armes nucléaires, a ajouté Tartravanchi. Jusqu'à présent, malgré leurs engagements explicites en faveur du désarmement nucléaire, conformément à l'article 6 du TNP, ces pays ont évité d'accepter le désarmement nucléaire programmé sous des prétextes politiques, a annoncé le chef de la mission iranienne à l'ONU. Concernant les raisons pour lesquelles ces pays se soustraient au désarmement nucléaire, Tartravanchi a souligné « Ces pays déclarent que les conditions du désarmement nucléaire ne sont pas réunies, alors que ce n'est qu'une excuse, car cette excuse peut toujours être invoquée. » Le chef de la défense civile iranienne a déclaré qu'Israël et les États-Unis étaient probablement à l'origine d'une cyberattaque qui a perturbé les ventes d'essence dans toute la République islamique. Olam Reza Jalali a fait cette remarque dans une interview avec le diffuseur national. Jalali a dit « Analytiquement, l'on pense que l'attaque a été menée par le régime israélien, les Américains et leurs agents. » Il a toutefois déclaré qu'une enquête technique sur la question n'avait pas encore été achevée. Mardi, une cyberattaque a provoqué des perturbations à l'échelle nationale du système de cartes à puces utilisé pour acheter du carburant. Environ la moitié des 4300 stations-service iraniennes ont maintenant été reconnectées et ont repris la vente de carburant subventionné. L'actualité régionale, une attaque à la roquette vient de viser ce dimanche matin un quartier près de la zone verte à Bagdad. Il s'agit d'une zone très importante car la plupart des bâtiments gouvernementaux ainsi que les missions étrangères en Irak, y compris l'ambassade des États-Unis, y sont situés. Des sources de sécurité affirment que trois roquettes Katyusha sont tombées dans le district de Mansour tôt le matin. Aucun rapport de décès ou de blessures et aucune revendication de responsabilité jusqu'à présent. Il s'agit de la première attaque depuis le 29 juillet lorsqu'une attaque similaire a frappé la région. Aucune victime n'a été non plus signalée dans cette attaque. Le mouvement yéménite Ansar Allah a dénoncé comme une démonstration de faiblesse une décision de Riyad et de ses alliés régionaux de rappeler leur ambassadeur au Liban en réaction aux déclarations tenues par un responsable libanais sur la guerre saoudienne contre le Yémen. Le responsable yéménite faisait référence à la réaction du royaume et de ses alliés engagés dans une coalition d'agression contre le Yémen aux récentes critiques du ministre libanais de l'Information concernant la guerre menée par les Saoudiens contre le Yémen. George Kordahi avait qualifié l'agression de futile et avait exigé que Riyad y mette fin. Il avait également déclaré que les forces yéménites d'Ansar Allah ne faisaient que défendre leur pays contre une agression extérieure. Enfin, Damas a fermement dénoncé une décision turque d'étendre sa présence militaire sur le sol syrien. Une source du ministère syrien des Affaires étrangères a déclaré aux médias locaux que la décision turque équivalait à une agression militaire et violait les résolutions de l'ONU. La source considère la politique de la Turquie comme une menace pour la paix et la sécurité régionale. Cela moins d'une semaine après que le Parlement turc a voté pour prolonger de 2 ans le mandat de l'armée pour lancer des opérations transfrontalières en Irak et en Syrie. Ankara affirme que sa mission vise à lutter contre les terroristes. Mais Damas a maintes fois condamné la présence turque sur son sol et accusé la Turquie de soutenir des groupes terroristes. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Reste avec nous. Merci. Nucléaire, ce qu'attend l'Iran de l'Europe. Joe Biden prévoit un nouveau plan pour assiéger l'Iran et débuter un nouveau cycle de négociations sur la levée des sanctions illégales contre le pays. Téhéran exigeant de son côté la levée complète de toutes les sanctions pour la reprise des négociations. Téhéran a annoncé être parvenu à un accord avec l'Union européenne pour la reprise des négociations sur la levée des sanctions américaines d'ici la fin du mois en cours, soulignant que les pourparlers se dérouleront dans le même cadre qu'avant, rapporte Al-Alam dans un article publié ce samedi 30 octobre. Pour le prochain tour des pourparlers, l'Iran cherche à s'assurer du niveau de respect de la partie européenne de ses engagements dans le cadre de l'accord, estiment les analystes politiques qui indiquent que la politique étrangère de la République islamique n'est plus la même que celle d'avant les élections présidentielles du mois de juin et que le nouveau gouvernement tient à suivre de près les changements. Commencé suite au retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien PGAC, les tensions entre les États-Unis et l'Europe se sont intensifiées après que l'administration Biden a retiré les troupes américaines d'Afghanistan sans tenir compte des positions de l'Europe considérée comme principal allié de Washington dans la guerre en Afghanistan. L'Iran surveille donc de près ces différends pour voir dans quelle mesure les Européens adhèrent au terme de l'accord nucléaire, alors que Washington fait preuve de scepticisme. D'un côté, il promet de lever les sanctions contre l'Iran lors des négociations, et de l'autre, il retarde et insiste sur leur maintien. La preuve en est que l'administration Biden avait promis lors des négociations précédentes de lever certaines sanctions, mais a fini par les rétablir par de nouveaux titres et appellations. En effet, les remarques des responsables américains ne reflètent pas nécessairement les véritables politiques de Washington. Tant que les sanctions sont en place, aucun signe d'engagement mutuel ne verra le jour. Les États-Unis utilisent les sanctions imposées à l'Iran sous l'administration Trump pour faire pression sur l'Iran dans l'espoir d'amener le pays à changer sa position dans la région. Or, ces pressions, aussi sévères soient-elles, ne peuvent forcer l'Iran à renoncer à sa politique régionale. L'administration Biden tente d'assiéger l'Iran en utilisant les régimes compromettants arabes, obligeant le gouvernement saoudien d'établir des relations formelles avec Israël afin de finaliser la formation d'une alliance arabo-israélienne contre l'Iran. La confiance mutuelle entre les parties, qui est la base de tout accord et négociation, s'est effondrée lorsque les Américains se sont retirés unilatéralement du PGAC et les Européens ont, quant à eux, refusé de respecter leurs engagements. D'où la nécessité de redéfinir les motifs qui font la base des négociations pour que l'Iran puisse s'y engager avec plus de confiance. La levée complète des sanctions est donc une condition préalable pour la reprise des négociations, mais aussi un moyen d'évaluer les Américains et les Européens en termes de respect de leurs engagements dans le cadre de l'accord, a conclu l'article avant de souligner que la Russie considère comme légitime la position de l'Iran.
Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat. La situation dans le nord d'Idlib en Syrie devient de plus en plus compliquée, étant donné que le président turc, au lieu d'adhérer à ses obligations en vertu de l'accord de cessez-le-feu, en effet continue des mesures provocatrices. Et dans ce cadre, l'armée turque a déployé tout récemment plus de 200 véhicules militaires dans la région. En plus, l'armée turque a pilonné à coups de mortier les régions en banlieue d'Idlib. Bien sûr, ces opérations, en d'autres termes, cet aventurisme du président Erdogan a suscité les vives réactions de Damas, mais aussi de Moscou, qui se prépare à contrer en effet ces agressions turques. Et dans ce contexte, non seulement l'armée arabe syrienne, en effet, s'est déclarée déterminée à défendre le territoire syrien, mais encore l'aviation russe a déployé des avions de chasse dans l'aéroport de Qamishli, dans le nord-est de la Syrie. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons analyser les principaux enjeux et objectifs de ce nouvel aventurisme du président turc en Syrie, les évolutions, notamment dans la région d'Idlib, et bien entendu, la perspective des évolutions à venir, notamment sur le terrain. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Bien que le président turc ait tenté plus que jamais de déstabiliser la situation dans le nord syrien afin d'y accroître son influence et d'acquérir d'une manière ou d'une autre du prestige auprès de l'opinion publique, ces mesures n'ont eu non seulement aucun effet sur la puissance militaire et les avancées continues de l'armée syrienne et russe, comme en témoignent les récentes frappes aériennes sur Kar et Mashon, mais il ne pourra pas échapper ainsi aux critiques de l'opinion publique selon lesquelles la présence dépourvue de sens et inutile de l'armée turque en Syrie est l'une des raisons pour lesquelles l'économie du pays est plongée dans un abîme sans précédent. Or, consciente de son incapacité à affronter les armées syriennes et russes, l'armée turque continue d'apporter des renforts militaires massifs dans le gouvernorat d'Idlib sous le contrôle de groupes terroristes, alors que l'armée syrienne a intensifié ses attaques pour libérer cette province. Des avions de combat russes ont effectué ce mercredi 27 octobre 7 frappes aériennes sur un quartier général du groupe qui se donne le nom de l'armée nationale syrienne située près de la ville de Kar, située au nord d'Idlib à proximité de la frontière turque. Les attaques consécutives des armées russes et syriennes sont certainement une réponse aux violations répétées du cessez-le-feu dans le grand Idlib. Les factions soutenues par la Turquie et les groupes affiliés à Al-Qaïda violent quotidiennement le cessez-le-feu négocié par la Russie et la Turquie l'année dernière, et l'agence de presse officielle syrienne Sana a rapporté que la Turquie avait transporté le 21 octobre un convoi de 31 véhicules et camions militaires chargés d'armes, de munitions et du matériel logistique à Idlib pour soutenir les groupes terroristes, notamment dans la banlieue d'Idlib et au village de Kafr Lusin, à proximité de la frontière turque. Les récentes mesures provocatrices de l'armée turque auraient pour leur motif de dissuader l'armée syrienne et ses alliés, en particulier l'armée russe, qui aurait l'intention de lancer une nouvelle opération terrestre dans le grand Idlib. La Syrie a déclaré à maintes reprises que la présence des États-Unis et de la Turquie en Syrie constituait une violation flagrante de la souveraineté syrienne et que des troupes turques et américaines devraient se retirer sans tarder des territoires syriens.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Permettez-moi de vous présenter tout de suite nos invités pour cette émission. Nous sommes en ligne depuis Paris avec Philippe Hugon, reporter de guerre et journaliste, et depuis Damas avec Mme Aïssa Armidani, analyste franco-syrien des questions internationales. Mme Armidani, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, merci à vous, bonjour à la semaine et à toute l'équipe spécifique et à M. Hugon.
Madame Midani, alors ces derniers temps, la Turquie de Recep Tayyip Erdogan s'est livrée à des mesures provocatrices et à des tentatives de déstabilisation dans le nord de la Syrie. Et dans ce contexte, alors tout récemment, l'armée turque a déployé 200 véhicules militaires dans la région, sans oublier bien entendu le soutien apporté par la Turquie aux éléments terroristes dans la région. Bien sûr, ces agissements, en effet, se sont heurtés à de vives réactions de la Syrie, mais aussi de la Russie. Que cherche aujourd'hui le président turc dans le nord de la Syrie? En d'autres termes, étant donné que l'armée turque continue de s'empêtrer davantage, en effet, dans cette crise, dans cette impasse, pourquoi M. Erdogan, alors, continue toujours dans cette politique de fuite en avant dans le nord de la Syrie?
En fait, Erdogan fait face à deux graves problèmes. Un premier problème qui est un problème intérieur, qui est effectivement le mécontentement global de la population, étant donné la dégradation des conditions de vie, la dégradation de la livre turque et puis surtout et la présence de terroristes et même et des réfugiés sur leur territoire. Ils transforment ceci pratiquement en réaction raciste contre les Syriens, mais en fait les fautifs c'est Erdogan qui a fait venir les terroristes de tous les pays à travers ses frontières et à travers la Turquie pour les faire venir en Syrie et ailleurs aussi, et en Irak et même en Libye. Ça c'est un premier problème auquel il est confronté. Le deuxième problème ce sont tous ces échecs effectivement politiques et militaires, parce qu'ils pensaient effectivement mettre la main sur le nord syrien en toute quiétude, étant donné le soutien américain, que l'occupation turque et américaine, ils pensaient que ça allait durer, que le fait qu'il ait utilisé des terroristes qui ont sévi en Syrie, dans toute la Syrie d'ailleurs, qu'il a eu pour cela le soutien de l'OTAN et des États-Unis et d'Israël, il pensait que ça allait durer. Et en fait, les succès et les victoires de l'armée arabe syrienne et de ses alliés les alliés, donc à la fois de l'axe du front de la résistance, donc les alliés de Hezbollah, de Hashd al-Sha'bi et puis les nos amis iraniens, mais aussi les alliés russes et qui sont contre le terrorisme. Donc face à cela et face à ces victoires où la Syrie a libéré plus de 85% de son territoire, et aujourd'hui l'exigence à la fois de l'État syrien, du peuple syrien et de nos alliés aussi, de retrouver, de sauvegarder, je dirais, la souveraineté de la Syrie et de mettre tous les occupants dehors, donc notamment les Américains et les Turcs. Maintenant, il fait une tentative, je dirais, désespérée pour gagner le maximum de terrain et de gagner le maximum de cartes pour négocier. Or, en fait, on voit que les terroristes se battent entre eux et il y a un véritable carnage entre les différentes factions terroristes, hein, qui sont toutes d'ailleurs soutenues par par la Turquie. Un autre point aussi, c'est que la résistance populaire syrienne commence à être aussi beaucoup plus prenante. Il y a tous les jours des manifestations, des protestations contre la présence turque en Syrie. Il y a des attaques de la population contre les voitures turques, contre les voitures de façade, etc. Donc, il essaye aussi de mettre le paquet pour montrer que effectivement la Turquie a aussi la main haute sur cette partie de la Syrie qui est Afrin et puis le nord-ouest de la Syrie mais aussi le nord-est. Donc il essaye, mais en réalité de toute façon la détermination syrienne et avec la Syrie maintenant, la Russie est déterminée à libérer la Syrie de tout terrorisme. Donc là, il part vraiment défait, mais il tente, mais il ne fait qu'aggraver son cas, à mon avis.
Merci infiniment pour ces précisions. Madame Idani, restez avec nous. On va tout de suite rejoindre à Paris Philippe Hugon, journaliste et reporter de guerre. Monsieur Hugon, bonjour et merci infiniment d'être en ligne avec nous.
Bonjour, merci à vous, à votre invité.
Monsieur Hugon, Madame Idani a énuméré les défis auxquels se voit aujourd'hui confronté le président turc sur le plan intérieur, mais aussi sur le plan extérieur, à l'intérieur de la Turquie. Comme Madame Idani l'a rappelé, alors, c'est la dégradation de la situation économique. La cote de popularité du président Erdogan est en chute libre. Et sur le plan extérieur, alors, des tensions croissantes, notamment sur le terrain syrien, avec la Russie et l'axe de la résistance. Et dans ce contexte, Erdogan, malheureusement, poursuit alors au lieu de tirer leçon en effet de cette expérience, poursuit cette tentative désespérée, cette politique de fuite en avant. Quelles seront les répercussions de ce nouvel aventurisme du président Erdogan en Syrie?
Alors, en premier lieu, je pense qu'il faut bien savoir qui est Erdogan et à quoi s'intéresse Erdogan. Alors, Erdogan, il y a deux choses qui l'intéressent, le pouvoir et l'argent. Il faut bien savoir que Erdogan ne supporte pas l'opposition, hein, et comme tous les grands dictateurs, il n'accepte pas la réalité de la situation. C'est ce qui le conduit aujourd'hui à mener une politique aventureuse. Alors pourquoi la Syrie est aussi visée? Eh bien, il faut savoir qu'on a découvert au large de l'Attaquié des nappes de gaz, de pétrole qui sont très très importantes. Et Erdogan estime aujourd'hui que cette énergie pourrait bien lui être utile et que la seule façon de pouvoir voler le pétrole syrien, parce qu'il faut appeler les choses comme elles sont, c'est ni plus ni moins que du vol. Hein, il faut bien savoir que si Erdogan ne s'était pas lancé en politique, il aurait fait un excellent chef d'une mafia quelconque. Donc il faut bien savoir que c'est un homme extrêmement dangereux et que cet homme est capable de vendre ses parents pour 20 dollars. Il faut bien se rendre compte de l'aspect psychologique d'Erdogan. Alors il cherche à plaire de temps en temps aux Russes, de temps en temps aux Américains. Ce qui l'intéresse, c'est son aura personnelle, son orgueil, et de façon à rester le chef absolu en Turquie. Donc pour ces raisons-là, il est dans son obligation personnelle de créer un certain nombre de conflits, notamment dans le nord de la Syrie, espace qu'il viole d'une façon permanente. Moi, je rappelle quand même que Bachar al-Assad a été élu, c'est un pays souverain, et je ne vois pas beaucoup, moi, les dirigeants de l'OTAN, de l'ONU, venir remettre un petit peu Erdogan à sa juste place. Alors, il est vrai que les Américains ont une très grande base en Syrie, en Turquie, donc ils essayent également de le ménager, mais j'estime aujourd'hui que c'est un homme qui est extrêmement dangereux, car il n'est plus contrôlable, donc il est en train de mettre dans une position très très difficile tous les pays de la région par les déstabilisations politiques qu'il crée. Et il faut savoir également que la Turquie aujourd'hui connaît des difficultés économiques et qu'il cherche à plaire aux Européens pour essayer d'en tirer des avantages matériels. Il faut bien savoir qu'Erdogan a passé quand même des accords avec un certain nombre de groupes terroristes, simplement pour servir ses ambitions personnelles. C'est d'ailleurs tout à fait ce qui se passe actuellement en Syrie. Cette déstabilisation, elle était pilotée bien sûr par les Américains, mais avec l'aval du président turc. Enfin, je dis président turc, si on peut encore appeler ça un dictateur, un président, je dirais plutôt que c'est un véritable dictateur qui ne supporte absolument pas qu'on puisse le contrer. Donc c'est un homme extrêmement dangereux, à la fois pour son pays, mais pour la sécurité des pays qui l'entourent. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, il est nécessaire que la Syrie puisse avoir cet appui de la Russie, ce que la Russie fait actuellement, car elle a bien compris que si elle laissait le champ libre à la Turquie, la Russie perdrait une zone d'influence importante, et des appuis politiques comme les appuis syriens dans la région, ce qui déstabiliserait encore un peu plus la région et qui permettrait d'avoir une mainmise de l'Europe et des États-Unis dans cette région également. Donc je pense que c'est quelqu'un qui est très dangereux par sa versatilité et sa fourberie permanente. Donc il est clair qu'aujourd'hui, moi j'aimerais bien voir les dirigeants de l'ONU qui, je le rappelle, font souvent la morale à des pays comme l'Iran, comme la Syrie, comme un certain nombre de pays de la région. Et une fois de plus, moi je constate que le monde occidental vend à faible prix sa moralité et ses ambitions de paix.
Merci pour ces éclairages, M. Grand. Madame Midani, avec un président imprévisible, opportuniste comme Erdogan, bien entendu avec la détermination de l'armée arabe syrienne, de l'axe de la résistance, avec des tensions croissantes entre Ankara, mais aussi Damas et les alliés de Damas. À quel scénario faudrait-il s'attendre, notamment dans le nord et le nord-est de la Syrie, d'autant plus que aujourd'hui, bien entendu, il paraît que, alors, sur le terrain, la situation devient de plus en plus compliquée avec notamment le déploiement des centaines de véhicules militaires turcs dans la région et le soutien d'Ankara à des éléments terroristes.
Effectivement, alors les scénarios sont... Aujourd'hui, je crois qu'il y a un seul scénario qui s'impose, c'est le scénario qui impose en fait pratiquement Erdogan, c'est le scénario de la confrontation militaire, ça, d'un côté. Mais d'un autre côté, en fait, il joue à la dissuasion en même temps, c'est pour faire peur, etc. Il fait rentrer tous ces véhicules militaires. Je voudrais quand même rappeler que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il soutient les factions terroristes et ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il leur passe des armes. Et là, actuellement, il y a peut-être moins d'aide de la part de l'OTAN, Mais avant, dans ces 10 années de guerre contre la Syrie, l'OTAN fournissait aussi beaucoup d'armements et beaucoup d'armes très modernes aux terroristes. Ceci n'a pas empêché l'armée arabe syrienne de gagner du terrain et puis d'effectuer des victoires. Et ça d'un côté. De l'autre côté, aujourd'hui, la Syrie comme la Russie. La Russie aujourd'hui est arrivée à une conviction totale qu'aujourd'hui, il faut absolument libérer Idlib et il est hors de question de laisser les terroristes sévir dans cette région de la Syrie. Il y va non seulement de la souveraineté de la Syrie, de sa sécurité nationale, mais aussi il y va de la sûreté de la Russie en même temps, parce que il y a aussi la base d'Akhmenin qui n'est pas loin et souvent elle reçoit aussi des missiles et des attaques aux drones. Je rappelle quand même que la Turquie avait fait descendre aussi un avion et un pilote et tué un pilote russe au tout début, donc en 2015-2016, et que de toute façon la patience stratégique des deux alliés, alors syriens et russes, a été très longue, et en même temps avec une volonté de discuter, de dissuader. Je rappelle quand même qu'Erdogan a signé à plusieurs reprises, a signé et resigné un accord en 2018 qui exigeait de lui en fait le retrait de tous les territoires syriens. Il n'en a été rien en fait. Il n'a appliqué. Il a demandé des délais. Ces délais ont été accordés. Il n'a jamais appliqué. Or aujourd'hui, il n'y a que la ligne forte qui doit compter pour faire face à Erdogan. Donc aussi bien sur le terrain par la force, la résistance populaire qui s'attaque effectivement à ses troupes et aux terroristes, aussi par les forces militaires où je rappelle quand même que la Russie et la Syrie la semaine dernière ont bombardé très violemment les quartiers généraux de ces terroristes qui sont soutenus par lui, par Erdogan et par la Turquie. Donc ils ont fait pas mal de dégâts, je dirais, à ces terroristes qui aujourd'hui donc commencent à se rendre aussi et qui commencent à se battre entre eux parce que certains veulent se retirer.
Merci Madame Hidalgo.
Donc voilà, merci.
Merci à vous, merci beaucoup. Une toute dernière question à Monsieur Hugon. Monsieur Hugon, il nous reste 3 minutes. Alors Madame Hidani l'a rappelé aujourd'hui, le président turc joue à la fois les cartes de la menace d'action militaire, mais aussi de la dissuasion. Qu'est-ce qui va sortir finalement de ces jeux contradictoires de Monsieur Erdogan?
Eh bien, je pense que Erdogan est dans une position aujourd'hui très difficile de par l'affaiblissement économique de la Turquie aujourd'hui. Donc, il souffle à la fois le chaud, le froid, les menaces, la diplomatie. Vous savez, c'est quelqu'un, Erdogan, de très versatile et qui n'est pas, à mon avis, à même de gérer une situation aussi complexe, situation qu'il a créée lui-même. Mais vous savez, quand vous avez autant de lâcheté de la part d'un président, quelle que soit sa signature, malheureusement, on ne peut pas vraiment en tenir compte. Quant à sa parole, eh bien, c'est du vent. Donc, on ne peut absolument pas avoir confiance dans un président comme celui-là. Le point positif dans tout ça, c'est que la Russie et la Syrie sont maintenant bien implantées dans la région d'Idlib et que la Russie ne laissera absolument pas faire la Turquie dans son ambition de contrôler une partie du territoire syrien. C'est ça que je retire de plus important, c'est la fermeté de la Russie par rapport à la Turquie. Et je pense que Erdogan est un petit chien qui aboie, mais qui n'a pas les moyens, ni financiers, ni militaires, aujourd'hui, de pouvoir intervenir.
Donc on ne peut pas s'attendre, M. Hugon, à une confrontation d'envergure dans la région.
Non, je ne pense pas qu'il pourra y avoir de grandes confrontations, si ce n'est que quelques échauffourées entre militaires, mais qui ne débouchera sur rien de très sérieux, je le pense vraiment aujourd'hui, puisque si l'affaire devait devenir très sérieux, ça prendrait des proportions qui seraient absolument incontrôlables aujourd'hui.
Philippe Hugon, journaliste, reporter de guerre depuis Paris, Aïssa Armidani, analyste franco-syrien de questions internationales depuis Damas. Je vous remercie infiniment d'avoir été nos invités pour cette édition du débat. Merci beaucoup.
Merci à vous. Bonne journée.
Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité africaine. L'émissaire des États-Unis pour la Corne de l'Afrique, Jeffrey Feltman, a déclaré avoir rencontré le chef des forces armées soudanaises et du Conseil souverain de transition, Abdel Fattah al-Burhan, pour discuter de la période de transition la veille de la situation au Liban s'est aggravé. Je l'ai vu 2 fois 2h30 samedi, 1h environ dimanche. Dimanche, c'était en tête à tête et il me parlait de ses inquiétudes concernant la transition, de ce qu'il considérait comme des pierres d'achoppement dans la transition, des problèmes dans la transition, le désarroi du côté civil, le manque de certaines institutions, a déclaré Feltman. Al-Burhan est le chef des forces paramilitaires, le général de MT, n'ont jamais laissé entendre qu'il dissoudrait le gouvernement par le biais d'outils militaires, mais ont discuté avec les États-Unis des moyens de répondre à leurs préoccupations apparentes quant à la manière dont la transition se déroulait, a-t-il prétendu. Et de poursuivre, Al-Burhan se rendra vite compte qu'il n'est pas si facile de ramener le Soudan dans un passé sombre. Lors de la décision 1989-2019 du président Béchir, étant donné la détermination des manifestants à empêcher un tel scénario, ainsi que les principaux acteurs internationaux et régionaux. Lorsqu'on lui a demandé de commenter l'absence de condamnation majeure du régime militaire au Soudan de la part des pays comme l'Égypte, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, ce diplomate américain a déclaré que leur soutien tacite serait de peu d'utilité pour le Soudan, en particulier pour résoudre les problèmes économiques imminents. Le Soudan était en train de restructurer quelque chose de comme 85 milliards de dollars de dettes. Je ne pense pas que les pays que vous avez mentionnés seront en mesure de remplacer la communauté internationale, les institutions financières internationales pour faire face aux problèmes économiques auxquels le Soudan est confronté, a-t-il déclaré. Plus tôt de cette semaine, la Banque mondiale avait suspendu son aide financière au Soudan suite au coup d'État militaire. L'armée soudanaise a arrêté le 25 octobre, rappelons-le, le Premier ministre Hamdouk et plusieurs autres membres du gouvernement. Fattah al-Burhan a déclaré l'état d'urgence dans le pays et la dissolution du gouvernement. Et la question qui se pose actuellement est de savoir, est-ce qu'il y a la piste israélienne dans ce qui se passe actuellement au Soudan? Un responsable israélien a déclaré au quotidien israélien Israël Hayoum qu'en raison de la situation actuelle dans ce pays africain, Israël devrait soutenir l'armée et son chef, le général Abdel Fattah Burhan, plutôt que le Premier ministre Abdallah Hamdouk, qui a été arrêté et emmené dans un lieu tenu secret. Le responsable a déclaré que le coup d'État était pratiquement inévitable car le Premier ministre est en désaccord avec l'armée depuis plusieurs années. Et il était évident que cela atteindrait un point de décision. Ce responsable israélien a ajouté que la situation de Soudan ressemble beaucoup à ce que l'Égypte a connu après le renversement de l'ancien président Hosni Moubarak en 2011, qui avait dirigé le pays des pyramides pendant des décennies avant de se retirer lors du soulèvement populaire connu sous le nom de Printemps arabe. Sur les deux dirigeants soudanais, c'est Burhan qui est de plus enclin à renforcer les liens avec les États-Unis et Israël, a déclaré ce responsable israélien. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, s'est à nouveau exprimé sur la crise diplomatique entre l'Algérie et la France dans un entretien accordé à la chaîne RT, diffusé samedi 23 octobre 2021. Le ministre algérien des Affaires étrangères a déclaré qu'il y a eu beaucoup de déclarations à propos de cette crise en France. L'Algérie ne pratique pas la diplomatie du haut-parleur, travaille dans le calme, exploite les canaux diplomatiques ouverts et enregistre ses positions en toute transparence et en toute clarté lorsqu'il s'agit de questions touchant à sa souveraineté nationale et à ses intérêts suprêmes, a déclaré le chef de la diplomatie algérienne lors d'une interview avec la chaîne russe RTI. Monsieur Lamamra a rappelé que la crise diplomatique avec la France a commencé après des déclarations incompréhensibles et inacceptables faites en haut lieu en France sans qu'un contexte raisonnable les justifie. Il s'agit d'une agression verbale sur la souveraineté de l'Algérie. On a parlé de l'histoire de l'Algérie, du système de gouvernance en Algérie, de questions de souveraineté. Nous n'acceptons aucune ingérence dans nos affaires intérieures de quelque part que ce soit, surtout lorsqu'il s'agit des autorités de l'ex-État colonisateur, a-t-il dit, en ajoutant « L'Algérie a mis les points sur les i, a pris des mesures concrètes pour exprimer son mécontentement, a convoqué l'ambassadeur d'Algérie pour consultation. » Et de l'ambassadeur à Paris et toujours à Alger. M. Lamamra a également parlé de la fermeture de l'espace aérien aux avions militaires français participant à l'opération Barkhane au Mali. Le président tunisien Kais Saied a appelé à une coopération et un partenariat plus fructueux et plus solide entre l'Organisation des Nations Unies et les différentes organisations régionales, particulièrement l'Union euro-africaine, a-t-on appris auprès de la présidence tunisienne. Cette déclaration a été faite par le président tunisien dans un discours à distance en marge d'un dialogue de haut niveau du Conseil de sécurité sur la coopération entre l'ONU et les organisations régionales, dont le thème était « L'UA renouveler la solidarité au service de la paix et de la sécurité dans un environnement de conflit en mutation ». Le président tunisien a insisté sur l'impératif de fournir un appui adéquat aux opérations de maintien de la paix menées par l'Union africaine sur les auspices du Conseil de sécurité de l'ONU en les finançant par des contributions statutaires aux Nations Unies. « une vingtaine de mouvements politico-militaires prêts à participer au dialogue national inclusif au Tchad. Une vingtaine de mouvements politico-militaires ont exprimé leur intention de participer au dialogue national inclusif qui aura lieu de fin 2021 dans la capitale tchadienne, a annoncé vendredi le porte-parole du comité technique spécial d'Alamine Bourma Traillé. Une délégation du comité technique spécial a rencontré ces derniers jours en France des leaders de 18 mouvements politico-militaires, dont le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad de Mahamat Mahdi Ali, qui avait mené en avril 2021 une offensive contre le pouvoir de N'Djamena et au cours de laquelle le président Idriss Déby Itno a été mortellement blessé. Les rencontres se sont déroulées dans une ambiance fraternelle empreinte de respect mutuel et de courtoisie. Elles ont été fructueuses par la participation de chacune des parties, a déclaré M. Traillé. L'ancien ministre des Finances a salué l'esprit de fraternité, de patriotisme et d'apaisement et de dépassement qui a prévalu lors des débats, a-t-il souligné. C'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.
Thank you.